Et bonjour à toutes et à tous, curieux et curieuses, bienvenue dans l'onde curieuse de ce mardi 21 avril. Ouvrir une porte et entrer dans un monde qu'on connaît finalement assez mal, celui des fermes, des savoir-faire et de tout ce qui se joue derrière ce que l'on mange au quotidien. Les 25 et 26 avril, De Ferme en Ferme revient en Ardèche pour sa 27e édition. Pendant tout un week-end, des agriculteurs et agricultrices ouvrent les portes de leurs fermes au public. L'idée, c'est de permettre aux visiteurs de découvrir concrètement leur métier, leurs pratiques, leurs produits à travers des visites, des démonstrations, des dégustations ou encore des animations. L'événement est organisé en plusieurs circuits à travers le territoire pour encourager les gens à aller de ferme en ferme, rencontrer les producteurs et mieux comprendre ce qui se joue derrière notre alimentation. Pour en parler aujourd'hui, deux invités, Lucie Aubou, coordinatrice, animatrice de projet et en charge de la gestion administrative de la Fédération des CIVAM de l'Ardèche, et Pascal Ardeur, maître distillateur de la distillerie Elvia au domaine du Bosquet à Saint-Didier-sous-Aubenas, qui ouvre ses portes à cet événement pour la première fois cette année. Et bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et aussi le bonjour à Sylvain à la technique.
Salut, salut.
Et le bonjour à Plex qui co-anime cette onde curieuse avec moi.
Bonjour à tous et à toutes.
Et avant de rentrer dans ces fermes, un petit point sur l'agenda des événements. On commence à Aubenas demain au navire. Une soirée ciné-rencontre est proposée à 20h autour du documentaire Par la fenêtre ou par la porte de Jean-Pierre Bloch. Donc la projection sera suivie d'un échange avec Patrick Ackermann, partie civile lors des procès liés à l'affaire France Télécom, et Serge Djamgotian, membre de l'association Sam Travail. Le film revient sur la privatisation de France Télécom au milieu des années 2000 et sur les conséquences sociales du plan Next, qui visait des milliers de départs au sein de l'entreprise. Il retrace le combat mené par des salariés, des syndicats et des familles jusqu'à la reconnaissance judiciaire du harcèlement moral institutionnel dans cette affaire. C'est donc demain au navire à 20h, avec un tarif unique de 7 euros. Au cinéma Les Quinconces à Vals-les-Bains, une projection est proposée demain à 15h, dans le cadre d'un cycle consacré au patrimoine et à la ruralité. Le documentaire « Récolter pour semer » réalisé par Justine Collomb donne la parole à 6 Ardéchois autour de la mémoire industrielle du territoire. Et à travers leurs témoignages, le film revient sur une époque aujourd'hui disparue liée aux activités et savoir-faire locaux. La séance se déroulera en présence de la réalisatrice et sera suivie d'un moment d'échange avec le public autour d'un verre. À Gravières, la compagnie Jeanne Simone est en résidence toute la semaine et propose plusieurs rendez-vous ouverts au public autour de sa création, Le Truc qui se marche. Donc demain à 18h, une lecture suivie d'un temps d'échange est organisée à la bibliothèque du village. Et ce moment s'inscrit dans le travail mené par les chorégraphes Laure Terrier et Sarah Grandjean qui développent un projet autour de la marche, du mouvement et de la manière d'habiter les espaces ruraux. Et jeudi à 18h30, une sortie de résidence qui est proposée à la Halle. Les artistes y montrent des fragments chorégraphiques, des expérimentations autour de la marche, notamment à reculons, et partagent leurs recherches menées dans le village. Pour finir, vendredi à 21h, la SMAC 07, structure dédiée aux musiques actuelles en Ardèche, propose une soirée à deux projets, avec Pembele qui ouvre la soirée. Le groupe composé de 7 musiciens et musiciennes mêle des influences rock, punk et pop avec des sonorités issues de la culture de la Caraïbe colombienne, avec percussions, voix et guitare électrique. Et puis Elle Danse qui présente un set orienté vers une musique électronique de type techno-mélodique accompagnée d'une performance scénique en mouvement. Les tarifs vont de 10 à 20 euros et les réservations se font en ligne auprès de la SMAC 07. Et pour l'occasion, la SMAC 07 et Fréquence 7 vous font gagner deux fois deux places, donc 4 places. Pour participer, il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom et numéro de téléphone à contact@fréquence7.net. Et pour vous mettre dans l'ambiance, on écoute tout de suite Frutera de Pembele.
para para papaya, se cayó el palo de papaya. Se cayó el palo en papaya.
Para papaya, se cayó el palo en papaya.
Birin, birin, bindero, a mí me gusta el limonero.
Birin, birin, bindero, a mí me gusta.
Vendo poco, pero nunca me equivoco. Rayadito, madurito, mi coco te vuelve loco.
Para papaya, se cayó el palo en papaya. Para papaya, se cayó el palo en papaya. Birin, birin, bindero, a mí me gusta el limonero. Birin, birin, bindero, a mí me gusta el limonero.
Vous venez d'entendre Frutera de Pembele, que vous pouvez aussi découvrir en concert au Théâtre de Viviers ce vendredi. Et pour l'occasion, je le répète, on vous fait gagner deux fois deux places. Pour participer, il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom et numéro de téléphone à contact@frequence7.net. Et vous êtes toujours sur l'onde curieuse. Et aujourd'hui, on parle de la 27e édition de De Ferme en Ferme avec Lucie Aubout de la Fédération des Civannes de l'Ardèche, ainsi que Pascal Arder, maître distillateur de la distillerie Elvia, et qui ouvre pour la première fois sa ferme familiale au domaine du Bosquier à Saint-Didier sous Aubenas. Alors, pour commencer, Lucie, De Ferme en Ferme aujourd'hui, c'est un événement qui est bien installé en Ardèche, mais à la base, c'est né en Drôme. Comment cet événement s'est créé et pourquoi faire ?
Alors oui, c'est créé tout d'abord en Drôme à l'initiative d'agriculteurs et d'agricultrices qui voulaient ouvrir leurs portes au public et faire connaître leur production, leur manière de travailler. Donc c'était il y a 33 ans, il me semble. Puis l'Ardèche a suivi, donc il y a 27 ans. Et c'est porté donc en Drôme et en Ardèche par les CIVAM, qui est un réseau national, et ça peut être également porté par d'autres associations dans d'autres départements.
Et le CIVAM, c'est une association qui œuvre pour...
Qui œuvre pour l'agriculture durable, pour des campagnes vivantes et solidaires. C'est un réseau de paysans, de paysannes et de personnes en milieu rural et qui porte divers projets sur l'alimentation, avec des formations, l'ouverture des fermes, l'accueil pédagogique, etc.
Ok, donc c'est le CIVAM qui organise tous les événements autour de Ferme en Ferme. Mais vous faites aussi des actions tout le reste de l'année.
Oui, tout à fait. On a multiples projets, des projets avec des structures d'aide alimentaire pour essayer d'améliorer la qualité de l'offre, avec aussi des chantiers de glanage qui sont organisés, des projets avec un collectif de femmes, donc Frangine 07, de paysannes, d'ouvrières agricoles, femmes du monde rural. Et on a également des projets, un réseau de fermes qui font de l'accueil pédagogique, donc de scolaires, de centres de loisirs, etc.
Ok. Et pour revenir sur cet événement de ferme en ferme, on parle de combien de fermes en Ardèche qui s'ouvrent ?
Alors cette année en Ardèche, on a 52 fermes qui vont ouvrir leurs portes, donc c'est un peu plus que l'année dernière. On a 11 nouvelles fermes participantes, donc à la fois en élevage, en maraîchage, en distillerie, en chevaux thérapeutiques, etc. Donc plein de productions différentes. 3 restaurants partenaires et aussi un jardin artistique, donc un peu particulier, mais voilà, qui vient bien compléter l'offre de fermes et d'opportunités découvertes.
Et cette année, vous avez porté l'événement autour du thème de l'alimentation. Mmh. Pourquoi avoir choisi ce thème-là ?
Alors, c'est un thème qui est choisi au niveau national. Ça a été choisi parce que c'est un thème qui est beaucoup porté par le réseau national CIVAM dans plein de départements différents. Et en Ardèche, c'est un thème qui nous tient vraiment à cœur parce que on a pour objectif et ambition d'améliorer l'accès à l'alimentation pour toutes et tous, donc de qualité. Et on travaille avec différents collectifs qui portent des projets de démocratie alimentaire et des centres sociaux et des structures d'aide alimentaire. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans ce thème-là. Et pour les agriculteurs qui sont à la base de la production, c'est vraiment aussi important de montrer qu'en fait, l'alimentation et notre alimentation de tous les jours, d'où elle vient et comment elle est produite. Donc ça a du sens aussi pour le monde paysan.
Ça revient un peu à votre slogan, entre guillemets, de la fourche à la fourchette.
Oui, tout à fait.
Quand tu parles de qualité alimentaire, tu nous parles de bio ou pas spécialement ?
Alors, pas spécialement. La qualité alimentaire, elle peut être sur différents aspects. Elle peut être sur à la fois l'impact qu'a la production agricole à la base sur l'environnement, sur le territoire. Elle peut être aussi sur l'impact sur notre santé, donc la qualité de ce qu'on va avaler. Mais du coup, c'est pas forcément du bio, mais ça peut en faire partie. En fait, l'idée, c'est aussi de donner le pouvoir aux citoyens de choisir quelle alimentation ils ont envie d'avoir. Et notamment dans ces collectifs de travail sur la démocratie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de manger. Ça peut ne pas forcément être du bio, mais ça peut être des pratiques agroécologiques qu'il y a derrière, des pratiques qui sont en accord avec l'environnement. Donc voilà, là, c'est un label qui permet de donner du sens, mais c'est pas forcément que du bio.
On pouvait appeler aussi comme du raisonné.
Oui, après, raisonner, voilà, on ne sait pas forcément ce qu'on met derrière, ce n'est pas forcément un label de qualité, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de savoir d'où viennent les produits, de connaître les agriculteurs et de faire le lien avec les agriculteurs et de savoir comment ils produisent. Donc aussi, aller voir les fermes, visiter, échanger avec eux, c'est important.
D'accord, de sortir un peu d'une logique d'exploitation agricole intensive, mais quelque chose d'un peu plus personnel et plus proche.
Oui, tout à fait, l'aspect social aussi derrière, il est important, c'est... combien de personnes travaillent sur la ferme, qu'est-ce que ça produit aussi en termes de dynamique sur le territoire et quelle est la qualité de vie des agriculteurs. C'est pas que l'aspect protection de l'environnement, mais c'est aussi protection des agriculteurs et leur qualité de travail et de vie.
On parle aussi de favoriser le circuit court.
Oui, bah du coup l'objectif de Deux Fermes en Ferme, c'est en grande partie aussi de promouvoir les circuits courts, la production locale. Donc on a seulement que des fermes qui qui vendent en circuit court via des marchés de producteurs, via des magasins de producteurs, via des magasins locaux. Donc l'idée, c'est de promouvoir ça et de redonner aussi de la valeur aux produits. Donc que quand on vend un produit, on prenne quand même une grande partie du montant acheté et qu'on ne se retrouve pas avec seulement quelques pourcents qui reviennent à l'agriculteur.
Et vous faites aussi de l'éducation aussi à travers des animations autour de la sécurité sociale à l'alimentation. On parle de quoi quand on parle de sécurité sociale à l'alimentation ?
Alors aujourd'hui, donc, que ça soit sur le territoire national, mais du coup aussi en Ardèche, il y a des initiatives qui émergent pour créer des caisses citoyennes, pour aller vers des sécurités sociales de l'alimentation. Alors juste rapidement, le principe c'est que les citoyens qui prennent part, ils vont cotiser à différentes hauteurs, donc ça peut être 50, 80, 100 euros ou plus, et puis à la fin du mois ils vont avoir un montant fixe, donc tout le monde va avoir le même montant pour aller acheter des produits alimentaires dans différents commerces conventionnés. L'idée c'est que ça soit les différents principes, c'est l'universalité, donc ça soit accessible à tout le monde. Le conventionnement, donc les citoyens décident qui conventionne. Donc là, on peut repartir sur la question des labels bio, etc. Et du coup, vraiment d'avoir un principe démocratique et de choix de son alimentation.
Ok. Et ce week-end, il y aura des animations dédiées à ça ?
Oui. Il va y avoir des collectifs de citoyens, donc notamment le collectif de citoyens de Priva, porté par la communauté de communes de la CAPCA, qui va présenter son projet à la ferme de Talent. Et puis en Sud-Ardèche, on va avoir la ferme de la Pampa, la présentation du projet alimentaire territorial. Et puis une petite expérimentation de marché à prix différencié à la Marèverie. Donc ça sera l'occasion d'un peu expérimenter la possibilité d'acheter à différents prix et de choisir à quel prix on veut acheter ses produits.
Ok.
Et ça se passe comment concrètement sur un marché
Prix là, il va y avoir le choix. Ça va être possible d'acheter à 65% du prix, à 100% du prix ou 125% du prix. L'idée, c'est qu'à la fin du marché, ça se rééquilibre entre les personnes qui ont choisi de mettre plus ou les personnes qui ont choisi de mettre moins et que du coup, il n'y ait pas d'impact sur les producteurs, que les producteurs aient le montant normal, donc à 100%, mais que ça ait permis à des personnes d'acheter des produits moins chers.
D'accord. Et c'est le client lui-même qui détermine, je vais faire du 125%.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. C'est libre de choix. En conscience.
Et il y a aussi l'association Pignon Libre qui collabore, entre guillemets, avec
oui,
vous.
Oui, un partenaire.
Ils proposent donc un circuit vélo de 2 jours, c'est ça ?
Oui. Ici, ils vont proposer un circuit vélo en Sud-Ardèche, donc sur le circuit Cévennes méridional, pendant 2 jours. Donc, c'est 50 km par jour. Alors, ça fait un peu peur, mais ça va être toute la journée, tranquillement, avec des visites de fermes tout au long de la journée. Donc, ils vont visiter 5 fermes sur 2 jours. Et le soir, il y aura bivouac sur la ferme de la Pampa. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association, et notamment Florence de Pignon Libre, pour prendre part à ce circuit.
Parce qu'il y a 6 circuits au total sur 2 fermes en ferme plutôt qui sont construits de manière géographique, on va dire. Et ce circuit-là avec Pignon Libre se situe dans lequel ?
Alors là, c'est le circuit Cévennes méridional qui va être visité.
Ok. Ouais.
Avec plusieurs fermes, vous pouvez le voir sur le site internet avec toutes les informations sur l'Ardèche de ferme en ferme.
Et aussi, il y a pas mal de restaurants qui vont ouvrir leurs portes et qui vont travailler avec les fermes pour proposer un repas fait, construit avec les produits de la ferme.
Tout à fait. Alors, on va avoir 2 restaurants partenaires en Sud-Ardèche. Il y a le restaurant Le Perron à Bannes et l'accueil à Ribes qui va participer et cuisiner avec les produits des fermes de ferme en ferme ou avec des produits de ferme locale. Et puis également des fermes qui vont faire de la restauration pendant le week-end.
Ok, on ne connaît pas encore le menu.
Vous pouvez avoir accès au menu sur le site internet, ça y est, ils sont sortis.
Et on pense aussi peut-être à réserver, puisqu'il y aura du monde.
Oui, c'est mieux de réserver. Sur certaines fermes, ça sera plutôt des encas, donc c'est possible d'arriver et de prendre sur place.
Ouais. Et pensez aussi à prendre du liquide, puisque toutes les fermes n'ont pas de...
Terminaux.
C'est ça. Tout à fait.
Et donc, Pascal, vous êtes distillateur donc, pour la distillerie Elvia, que vous avez créée vous-même.
Oui.
Donc, vous êtes au domaine du Bosquet, donc, qui est une ferme familiale. Est-ce que vous pouvez présenter un peu les différentes activités qu'il y a dans votre ferme ?
Alors, notre ferme familiale, elle est en pleine transition entre l'activité qui a 30 ans de mes parents, qui était sur une agriculture, vraiment une polyculture très vaste, hein, avec un peu d'élevage, quelques fruitiers, un peu de production maraîchère, et qui maintenant est en train de passer justement sur la distillation en tant que telle. Donc, on va réorienter les vergers, une partie des champs vers la fabrication d'alcool spiritueux, ainsi que des plantes aromatiques et médicinales pour faire de l'absinthe ou du gin. Et de l'autre, l'élevage de chevaux thérapeutiques de ma petite sœur, qui du coup fait une rotation avec, par exemple, les champs sur lesquels aujourd'hui il y a de l'avoine ou du seigle ou de l'orge qui pousse. Et bien l'année prochaine, ce sera un pâturage, justement pour derrière avoir une régénération aussi en matière organique grâce aux chevaux.
Ok. Et on parle de quoi quand on dit élevage de chevaux thérapeutiques ?
Alors ce sont des chevaux qui sont spécifiquement, comme dans tout élevage, hein, qui sont sélectionnés, qui sont reproduits pour avoir des caractères très particuliers. On ne parle pas juste de génétique et de physique dans ce cas-là, on parle vraiment d'un caractère très doux, des chevaux qui sont aussi ensuite formés et éduqués à être patients avec des publics qui du coup parfois ont des comportements qui sont plus imprévisibles, justement pour pouvoir travailler avec des personnes qui sont soit en perte de confiance, soit qui ont justement des troubles d'ordre psychiatrique. Et qui du coup, grâce à l'interaction avec des animaux, donc là dans ce cas-là des chevaux, peuvent justement trouver aussi un cadre qui soit sécurisant et qui donne aussi confiance. Après il y a toute une démarche autour et qui se fait du coup avec des partenaires institutionnels et professionnels, mais avoir des chevaux comme ça dans le sud de France, il n'y en a pas des masses. Parce que du coup c'est une question de longue haleine, pour avoir un cheval qui soit opérationnel pour ce genre de choses-là, il y a 3 à 5 ans de travail.
Oui.
Donc vous travaillez avec des organismes pour ça ou des particuliers ?
Ma petite sœur s'est installée il y a 2 ans et demi, donc c'est quelque chose qui prend son temps. Pour l'instant, il y a des particuliers qui peuvent venir effectivement, mais aussi des éduxpé qui effectivement peuvent être intéressés pour des événements ou des moments spécifiques dans le cadre de leur suivi de public.
Il n'y a pas du tout d'aspect d'équitation, de sport en tant que tel, c'est vraiment thérapeutique.
Pour ces chevaux spécifiquement, c'est vraiment thérapeutique. Y a également des chevaux qui sont là pour ensuite faire des balades dans un second temps, mais c'est vraiment aussi le travail sur ces animaux-là, d'éducation, du coup d'interaction avec bah, du coup, des enfants, comment est-ce qu'on approche un cheval, et en même temps comment est-ce que le cheval est préparé à un enfant de 5 ans qui ne va pas du tout avoir le même comportement qu'une jeune femme de 25, qui va être plus calme, plus posée, qui a un peu plus d'expérience. Mais voilà, ce côté imprévisible, en fait, il se prépare avec les animaux également, justement pour une question de bien-être des animaux, mais aussi du coup derrière de la thérapie.
Ok, et donc là, cette année, c'est la première fois que vous ouvrez vos portes à deux fermes en ferme. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous proposer
Techniquement, ce sont des amis. Donc nous, on a l'habitude d'accueillir par différents événements sur la distillerie ou sur la ferme. Et on réfléchissait à comment profiter voilà, du printemps pour faire quelque chose. Et on a des amis qui sont déjà dans ferme en ferme et qui nous ont dit « mais cherchez pas plus loin, en fait, c'est ça qu'il vous faut, vous correspondez très bien ». Donc j'ai appelé le CIVAM et puis Lucie m'avait décroché, on a passé une heure au téléphone. Et ça nous a tout de suite convaincus. La démarche d'agriculture durable, de respect aussi, que ce soit de l'environnement, que ce soit des animaux ou de l'humain qui soit sur l'exploitation. Quand on a fait les formations, parce qu'on est largement accompagné par le CIVAM pour une première édition, on a eu des réflexions auxquelles en fait, on aurait voulu avoir accès lorsqu'on était en formation pour le montage d'une entreprise, pour le montage d'une exploitation agricole, qui sont extrêmement précieuses et qui font bien réfléchir. Donc ça nous a aussi confortés. Et l'envie première, c'est vraiment de pouvoir montrer ce que l'on fabrique, même si du coup, ce n'est pas l'alimentation du quotidien. Je fais de la distillation, donc techniquement, ce n'est pas au quotidien. Vous êtes censé boire de l'alcool. Je rappelle la modération.
À voir.
Mais dans ce sens-là, on aime bien partager ce que nous fabriquons, comme les différentes personnes que j'ai pu du coup, rencontrer dans le cadre des formations du CIVAM. C'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de transmettre. Et c'est extrêmement motivant du coup, de participer à cette dynamique.
Mmh.
Et justement, en termes de distillation, qu'est-ce que tu fais comme type de produit ?
Alors, moi, sur la partie distillation, du coup, je fabrique du whisky, du gin, de l'absinthe, des eaux de vie de fruits, de la liqueur et du sirop pour les personnes qui ne veulent ou qui ne peuvent pas boire d'alcool lorsqu'elles viennent à la distillerie.
D'accord, donc tu te sers effectivement des terres familiales avec les fruitiers pour certains, d'autres oui. Des plantes médicinales.
Oui, je me suis découvert la main verte pour faire pousser par exemple de l'absinthe. Je triche parce que c'est une plante qui est très simple à faire pousser, mais également du coup de faire émerger un véritable jardin aromatique. Mais dans le même sens, quand c'est la période des moissons, eh bien on monte sur notre vieille moissonneuse-batteuse des années 50, c'est un monstre de technologie, et on va moissonner notre seigle justement pour avoir des ingrédients qui viennent le plus possible de notre ferme.
Comment ça se passe au niveau de tes procédures? Tu fais de la simple distillation, de la double distillation? Comment ça se passe quand tu es dans ton laboratoire?
Ah, je fais ce que je veux. J'ai trois alambics différents qui me permettent de faire de la simple distillation. Donc on a un alcool qui est comestible en une seule distillation. Et on a également des alambics avec lesquels il faut faire au moins deux distillations. Et par exemple, pour faire du gin, il y en a trois. Donc c'est vraiment en fonction des matières premières, donc que ce soit des fruits, que ce soit des céréales, que ce soit de la bière, que ce soit du vin, ou que ce soit des alcools de plantes, on va avoir différentes distillations, et c'est justement cette grande liberté-là qui, moi, me nourrit chaque jour, parce que ça me fait un grand plaisir de pouvoir travailler avec des engins complètement différents.
Et quand tu... Ça, c'est juste une petite question personnelle, je me suis toujours demandé comment tu procédais à une distillation pour avoir un alcool de base, donc... pour quelque chose que tu puisses faire des liqueurs, quel que soit ce que tu veux faire derrière.
Alors,
Quelque chose de non marqué,
alors c'est très simple, il faut avoir recours à une colonne de distillation industrielle. Vous allez avoir Valon-Pont d'Arc et puis là vous pouvez trouver de l'alcool industriel et ça c'est complètement neutre. Un alambic artisanal ne va jamais produire un alcool complètement neutre, c'est pas le but. C'est pas une raffinerie. Donc moi quand je vais travailler mon alcool de base, je vais le faire soit par exemple avec du vin par exemple, du vin, du raisin, de la bière que je peux récupérer également. Et que je vais distiller deux fois. Après, je peux y ajouter du charbon actif en poudre que je vais distiller une troisième fois. Et le charbon actif va capter des arômes pour avoir quelque chose qui soit un peu plus neutre. Mais c'est qu'une question de goût, techniquement. Parce qu'on a ce qu'on appelle les qualités organoleptiques d'un alcool. C'est-à-dire qu'en bouche, on va sentir si c'est un alcool de grain, si c'est un alcool de raisin, de fruits à noyaux, de fruits à pépins. Donc on peut viser la neutralité, mais en même temps, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas particulièrement. Et je peux terminer mon explication en disant que, historiquement, les liqueurs et autres ne sont jamais faites avec de l'alcool neutre. C'est-à-dire qu'on va utiliser la fin d'eau de vie de prune, et puis c'est là-dedans qu'on va mettre un peu de verveine, un peu de gentiane, et c'est ça qui va donner derrière les liqueurs. Mais historiquement, avoir de l'alcool neutre, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui s'est développé dans les années 60-70, mais qui n'est pas du tout ancré d'ailleurs dans les alcools paysans.
Oui, c'était les alcools de grand-mère et non pas ceux des grands-pères qui, eux, y allaient au contraire avec la mirabelle, la prune, etc., etc., et essayaient de retrouver le goût du fruit.
On peut le retrouver sans trop de mal. Le but du jeu, c'est de travailler justement avec du fruit. On peut travailler avec plein d'autres choses. On peut, dans la distillation, utiliser plein de solvants, de correcteurs de pH et autres, mais je fais partie d'une catégorie de distillateurs qui se désigne comme étant des gnôles naturels. C'est-à-dire que, comme on a le vin nature, par exemple, nous, on va considérer que c'est du fruit avec des levures qui sont directement sur le fruit, on distille et on ne corrige pas ça. La seule chose que l'on va ajouter, c'est de l'eau.
Voilà, pour changer, effectivement, le taux d'alcool.
Absolument.
Parce que moi, je me rappelle de la gnôle de mon grand-père, alors qu'il pouvait avoir ou à 70%, ou à 60 degrés, ou 50 degrés. Et c'était un choix, effectivement.
Oui, on sélectionne. Quand ça sort de l'alambic, mais du coup, ça fait partie des moments paysans qu'on propose lors de l'événement. Il y a différents moments paysans qui sont proposés sur différentes exploitations. Et nous, chez nous, on va faire tourner un alambic sur les deux jours. Donc ça va être un petit alambic qui va tourner tout au long de la journée. Vous allez pouvoir passer lors des visites. Et du coup, vu que c'est mon père et moi qui expliquons, on aura l'occasion de vous montrer que ce qui sort de l'alambic titre plutôt à 80-85 degrés d'alcool, ce qui n'a aucun sens gustatif. Mais derrière, on va pouvoir réduire avec de l'eau à des degrés qui soient comestibles ou utilisables.
En plus, tu travailles au bois.
Je travaille exclusivement au feu de bois de récupération. L'idée, c'est d'avoir un impact carbone le plus limité possible. Donc plutôt que d'importer du gaz, du pellet de bois, du fuel, de l'électricité comme d'autres distilleries, nous, en travaillant, du coup, en fendant le bois, en allant le préparer, on permet d'être beaucoup plus stable sur la production, parce qu'en fait, nos coûts de production n'ont pas augmenté depuis 2018, depuis la fondation de la distillerie. C'est mon temps de travail qui crée le combustible. Donc on est beaucoup moins dépendant aussi, et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur.
Marion, j'ai le droit à une dernière petite question.
Oui.
Allez, une dernière petite question. Est-ce qu'on a le droit de distiller soi-même si on a un vieil alambic à la maison ?
Alors, si vous avez un vieil alambic à la maison, c'est qu'il n'est pas déclaré. Après, je ne suis pas un gendarme. Techniquement, vous n'avez pas le droit de distiller vous-même avec des alambics que vous avez si vous n'êtes pas professionnel. En revanche, ce que vous avez comme droit, c'est la possibilité d'aller voir des distillateurs ambulants, donc soit qui se déplacent vraiment, il y a encore quelques-uns en Ardèche, soit qui du coup ont des ateliers fixes, parce que c'est plus facile aujourd'hui d'aller voir des distillateurs comme ça. Et là, vous avez le droit de faire fermenter vos propres fruits et de les amener dans une distillerie avec la licence pour distiller pour les particuliers. Il y en a 3 ou 4 en Ardèche qui tournent encore. Il faut prendre contact avec. Et c'est généralement, je prends l'exemple de la famille Botteac à Lussas, ils ont fêté leurs 100 ans. C'est un fossile, mais c'est un fossile vivant et c'est absolument passionnant. Donc ce droit-là, vous l'avez.
Eh bien, vous pourrez venir découvrir tout ça ce week-end, donc samedi et dimanche 25 et 26 avril. Eh bien, l'émission touche à sa fin, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Lucie et Pascal, d'être venus nous parler de tout ça. Donc, vous pourrez retrouver tous les circuits différents sur le site de Ferme en Ferme. Et évidemment, vous allez vous arrêter au domaine du Bosquet ce week-end à Saint-Didier-sous-Aubenas pour découvrir les différentes synergies agricoles de cette ferme familiale. Et merci beaucoup Sylvain à la technique et merci Plex pour cette animation.
Et merci à toi Marion.
Et surtout, ne quittez pas Fréquence 7 car à 13h, il y a l'émission pour penser, lutter et ne rien laisser passer. C'est drôle de dame. À 15h, il y a le Telex. À 16h, l'émission réalisée par Résonance sur la route. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, la polémique et la voix off. À 20h, votre émission punk préférée, Salut à toi. Et à 21h, Metal Zone. Et nous, on se retrouve jeudi pour parler de production audiovisuelle avec l'association R07. Ciao.